Bon, il va s'agir d'économie et aussi de politique. Alors, je vais me permettre d'appeler ça de l'économie politique. Ceci dit, celui qui vous parle n'est spécialiste ni d'économie ni de politique. Je suis juste quelqu'un qui s'est mis à rechercher ce qu'il y a derrière un grand nombre de grands projets inutiles imposés, comme on les appelle. Et j'ai constaté qu'on y rencontre fréquemment quoi ? Eh bien, le partenariat public-privé, le PPP. Je précise que quand je dis « j'ai essayé », je dis bien « essayer » de comprendre de quoi il s'agit. J'avais en tête le projet d'aéroport Grand Ouest de Notre-Dame-des-Landes, où ce partenariat public est supposé se donner libre cours. Alors, un peu d'histoire pour commencer. Auparavant, pour réaliser un équipement supposé d'intérêt public, on va dire à l'ancienne si vous voulez, l'État ou la région ou le département, enfin la collectivité, s'il n'était pas assez riche, empruntait, par exemple à une banque, mettons au taux de 4 ou 5% l'an. Il faisait construire l'équipement en tant que maître d'ouvrage, et puis il pouvait en confier l'exploitation à une entreprise détentrice de savoir-faire quant à l'exploitation. Cette entreprise ne voyait aucun inconvénient à payer un loyer, c'était ça la règle, à l'ancienne. Ça permettait à la collectivité de retomber sur ses pieds, puisque ce loyer, justement, était là d'abord pour rembourser l'emprunt. Et puis ensuite, bien sûr, si tout se passait bien, ce loyer de l'équipement pouvait même devenir tout bénef. Question. D'où l'entreprise locataire ou concessionnaire devait-elle tirer ses propres bénéfices ? Eh bien, d'une bonne gestion de l'équipement, tout simplement. C'est-à-dire en faisant correctement son boulot, voilà. Vaille que vaille, ça a plutôt bien marché comme ça. Le proverbe à l'ancienne ne disait-il pas, d'ailleurs, chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Ah, oui mais. Les entreprises détentrices de savoir-faire en bloc, celles qui savaient réaliser elles-mêmes ou faire réaliser des équipements en sous-traitance, et puis qui savaient aussi exploiter l'équipement, vous pensez bien, on finit par apprendre ce métier si on apprend sur le tas. Eh bien, ces entreprises, pas n'importe lesquelles, des grosses qui œuvrent aussi à l'international, ces entreprises ont commencé à se dire qu'elles pourraient vraiment mieux satisfaire leurs actionnaires. C'est ça le but ? Non ? Qu'ils pourraient mieux satisfaire les actionnaires, et soit dit en passant, que les dirigeants pourraient encore plus s'en mettre dans les fouilles, s'il était adopté un système plus intelligent. Lequel ? Le leur, bien sûr. Et puis, un peu de lobbying par-ci, un peu de lobbying par-là. Il y a de ça une petite dizaine d'années, ils ont réussi à convaincre l'État que leur système serait mille fois mieux. On comprendra peut-être tout à l'heure quels arguments ont pu se montrer convaincants, mais voyons d'abord comment ça marche. Comment ça marche, ce que certains considèrent carrément comme une invention géniale de l'économie politique au XXIe siècle. J'ai nommé Sa Majesté donc le partenariat public-privé. Comment ça marche ? Eh bien, désormais, pour réaliser un équipement d'intérêt public, on passe, au cours d'une conversation entre amis, on passe une convention, joliment appelée de partenariat public-privé. L'expression elle-même est formidable, non ? D'ailleurs, partenariat privé-public serait d'ailleurs plus juste, mais enfin. Selon les termes de cette convention, c'est désormais l'entreprise détentrice des savoir-faire qui prend tout en charge de A jusqu'à Z. La préparation, la construction, et puis l'exploitation, et puis l'entretien, et tout, et tout, et tout. La collectivité s'engage en retour à lui verser chaque année, pendant seulement quelques dizaines d'années quand même, à Notre-Dame-des-Landes, près de 30 ans je crois, si l'aéroport se faisait. Mais je ne suis pas tout à fait sûr de cette durée. Donc la collectivité, l'État ou la région ou le département lui devra chaque année un pourcentage de la valeur du capital investi. Un pourcentage de la valeur du capital investi. C'est nouveau ça. Par exemple, mettons 12% pour donner une idée. Bon, il faut reconnaître que là-dessus, l'entreprise détentrice des savoir-faire devra peut-être rembourser à une banque la somme qu'elle aura empruntée à 4 ou 5%. Mais bon, il lui restera tout de même dans les 7-8%, non? Je dis bien 7-8% garantie. Et ça, même si les affaires marchent mal. C'est ça qui est super, non? Même si les affaires marchent mal. On peut se dire que, voilà, il s'agit d'un risque zéro au pays du libéralisme à sens unique. C'est un risque zéro revendiqué par ces entreprises, mais aussi par leurs alliés, peut-être au sein de la technostructure. Oui, ça, on commence à le comprendre à la lueur des faits, que le libéralisme affiché est souvent un protectionnisme à peine déguisé. Mais attendez, 7-8% c'est un minimum, car ça peut même rapporter encore plus, c'est que dans le cas où l'entreprise est assez riche, et qu'elle dispose donc du capital nécessaire, elle n'a même pas besoin d'emprunter à la banque. Et en ce cas, bingo, 12% minimum garanti chaque année. Et ça, à ça s'ajoute le bénéfice d'exploitation, si l'affaire marche bien, évidemment. Mais ça, c'est pourquoi l'équipement a été construit, en fait, ça paraît du coup tellement secondaire. Enfin, quand même, si, pour garder le plus gros de ce revenu garanti, il suffira juste de comprimer tous les coûts, les salaires, par exemple. Hein. Et pour ça aussi, on peut faire confiance à une entreprise multinationale du 21e siècle, digne de ce nom. Elle détient, à n'en pas douter, un joli savoir-faire quand il s'agit de comprimer les coûts. Ah, j'allais oublier. Une chose qui, elle, n'est pas négligeable du tout, c'est que via la bourse, les copains sont invités à venir partager la galette. Et comme ça, on pourra sans scrupule aller prendre un petit bout de la leur en retour, voilà. C'est pas du beau travail, ça. Eh bien, il y a un proverbe qui dit « plus c'est gros, plus ça passe ». J'ai parlé d'invention géniale, selon certains. Écoutez comment un éditeur, il s'agit du Moniteur, présente le livre « Le guide opérationnel des PPP » qu'il publie. Je cite. « Le contrat de partenariat a marqué une véritable avancée en organisant une coopération efficace entre les entreprises privées et les personnes publiques, fondée sur la recherche en commun des besoins, de leurs coûts, et de la répartition optimale des risques. Les atouts de ce contrat en ont fait un outil de la relance économique. En effet, les indicateurs de performance et les évaluations et contrôles réguliers l'inscrivent naturellement dans un contexte dynamique qui accompagne tous les projets de construction ou de services publics. » Fin de citation. C'est vrai ça, la répartition optimale des risques ? Bon, puisqu'on vous le dit, voyons. Allez, maintenant, quelques questions pour s'activer les méninges. Il faut répondre par vrai ou faux. Je n'ai pas la réponse à toutes les questions, alors je ne pourrais pas forcément vous aider. Mais bon, voilà, phrase numéro 1. Le partenariat public a été instauré en France par un gouvernement de gauche. C'est vrai ou c'est faux? Le partenariat public-privé a été instauré en France par un gouvernement de gauche. En fait, je n'ai pas cherché. Mais c'est peut-être pas le plus important de savoir par quelle tendance politique ça a été instauré, si. Phrase numéro 2. Le partenariat public-privé n'existe qu'en France. C'est vrai ou c'est faux? Alors là, j'ai un petit peu cherché. Apparemment, c'est né en Grande-Bretagne. Et bon, un ami belge m'a dit que ça existe aussi dans son pays. Mais bon, j'ai pas cherché en détail quand même. Phrase numéro 3. À Notre-Dame-des-Landes, une subvention publique de 150 millions d'euros tombe en plus dans l'escarcelle de Vinci, quoi qu'il arrive. C'est vrai ou c'est faux? À Notre-Dame-des-Landes, une subvention publique de 150 millions d'euros tombe en plus dans l'escarcelle de Vinci, quoi qu'il arrive. Réponse, ben oui, quoi, ça fait jamais de mal, une subvention de 150 millions d'euros aussi. Phrase numéro 4. Cette subvention est autorisée par la Commission de Bruxelles. C'est vrai ou c'est faux? Cette commission, qui pourtant déteste certaines subventions, mais bon, pas celle-là, c'est bizarre. Hein. Cette commission vient juste de dire OK en décembre 2013. C'était dans les journaux. Et ça a malheureusement été interprété comme Bruxelles donne le feu vert, ce qui n'est pas du tout la réalité. Phrase numéro 5. Les grands travaux inutiles imposés peuvent avoir pour objectif d'alimenter, tout à fait légalement d'ailleurs, les caisses des partis politiques. C'est vrai ou c'est faux? Les grands travaux inutiles imposés peuvent avoir pour objectif d'alimenter, tout à fait légalement d'ailleurs, ou illégalement, mettons, les caisses des partis politiques. C'est vrai ou c'est faux? Là-dessus, j'ai pas de preuve. Bon, si quelqu'un en a, je suis preneur. Deux nouvelles questions cette fois, sans aucune réponse de ma part. Et comme, bon, je suis nul en calcul, alors j'espère qu'on m'excusera. Voici. 1. Si l'aéroport Grand Ouest de Notre-Dame-des-Landes se faisait, en combien d'années l'État, la région ou le département aurait-il payé à Vinci la somme qu'il n'avait soi-disant pas les moyens de dépenser pour construire? Si l'aéroport se faisait, en combien d'années les collectivités concernées auraient-ils payé à Vinci la somme qu'ils n'avaient soi-disant pas les moyens de dépenser pour construire? Bon, il faut calculer un peu. Je n'ai pas les chiffres pour le calcul d'ailleurs, il faut les chercher aussi. Combien rapporte à l'État, deuxième phrase, combien rapporte à l'État, à la région, au département, cette nouvelle façon de procéder, les PPP? Combien ça rapporte à l'État, à la région, au département, en tout cas aux collectivités, comment cette nouvelle façon de procéder, combien ça rapporte? Allez, on change maintenant de grand projet inutile imposé, direction Avignon, où l'on va dégoter une super information officielle. Voici deux phrases qui nous viennent donc d'Avignon, et c'est à vous d'en trouver l'auteur. Comme je connais les réponses, promis, cette fois, je vous les donnerai. En 2011, sous Sarkozy, le secrétaire d'État aux transports de droite donc était venu en Avignon annoncer qu'il ne serait pas question d'un partenariat public-privé pour réaliser le projet de liaison Est-Ouest, la fameuse LEO, autrement dit un tronçon de la rocade de la ville. Alors, ce jour-là, qui a dit, première phrase, dans l'hypothèse du partenariat public-privé, le coût serait plus de deux fois supérieur à un investissement public direct. Nous ne pouvons pas faire supporter une telle charge aux générations futures. Na voilà. Non, na voilà, c'était pas dans le texte. L'auteur de cette phrase était, selon vous, le préfet de région ou la secrétaire locale des Verts ou le PDG de Vinci? Je répète, dans l'hypothèse du partenariat public-privé, le coût serait plus de deux fois supérieur à un investissement public direct. Nous ne pouvons pas faire supporter une telle charge aux générations futures. L'auteur de cette phrase était, selon vous, le préfet de région ou la secrétaire locale des Verts ou le PDG de Vinci. Eh bien, la réponse, c'est le préfet de région, j'ai nommé Monsieur Hugues Parent, qu'on peut applaudir au passage. Deuxième phrase, qui a dit, cette solution, il s'agit toujours du partenariat public-privé, cette solution profite avant tout aux banques. L'auteur de cette phrase était, selon vous, le préfet de région, ou le secrétaire d'État, ou la section locale du parti de gauche. Le PPP profite surtout avant tout. Je prends la phrase telle quelle. Cette solution profite avant tout aux banques. L'auteur était-il, selon vous, le préfet de région, ou le secrétaire d'État, ou la section locale du parti de gauche? Eh bien, la réponse, c'est le secrétaire d'État, de droite donc. J'ai nommé Monsieur Thierry Mariani. Cette solution profite surtout aux banques. Étonnant, non? Et du coup, pas de partenariat public-privé pour la Léo d'Avignon. Alors, deviendrait-on raisonnable? Mais nous voici en 2013. Mariani n'est plus là. Le fameux préfet Hugues Parent, je ne sais pas. Car nous sommes sous la gauche, messieurs, dames, celle qui n'a même pas peur du partenariat privé-public, comme on va le constater. Et nous ne sommes plus en Avignon, mais à Marseille. Il s'agit cette fois de finir la rocade marseillaise, à laquelle il manque aussi un tronçon depuis des lustres. Lu dans le journal Pro Business La Tribune, le 7 mai 2013, je cite, l'État et Bouygues ont convenu de construire cette rocade sous le régime d'un partenariat public-privé. Un format, je continue ma citation, un format pourtant mis en cause par le gouvernement qui estime que trop souvent, Ces PPP ont coûté au final plus cher aux contribuables que s'il avait été lui-même le maître d'œuvre. Or, écoutez bien ceci, je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes, le partenariat public-privé a l'avantage de ne pas mobiliser d'argent par l'État qui se traduirait immédiatement par de l'endettement. Un avantage décisif en ces temps de disette budgétaire. Fin de la citation de la Tribune. Il ne faut pas se faire d'illusions sur les capacités de financement de l'État et des collectivités, disait le préfet en 2010. Mais l'État et les collectivités veulent quand même, à tout prix, je veux dire quel qu'en soit le prix, péter plus haut que leur cul. Il est tout de même intéressant de noter que le même préfet affirmait haut et clair un an plus tôt, le PPP sera la seule solution pour sortir de l'impasse financière. Et aujourd'hui, on a droit à... Nous ne pouvons faire supporter une telle charge aux générations futures. Excusez-moi, je suis revenu en Avignon, là. Je me demande ce qui a pu provoquer ce revirement de la part de ce type. Très exactement, je me demande à quel niveau la décision d'abandonner le PPP a-t-elle été prise. Pourquoi revenir Pourquoi particulièrement dans ce cas? Pourquoi l'argument que le PPP dilapide l'argent public n'est-il plus en vigueur? C'est passé à la trappe. Ce sont peut-être des nécessités politiques concernant la dette publique, l'officielle, quoi. Eh bien, on nous pollue donc l'esprit avec cette question du désendettement, prétexte à toutes les mesures d'austérité exigées par la folle finance. Et l'État, il fait quoi? Il continue de s'endetter à gogo en n'osant même pas l'afficher. Et qui en bénéficie? La finance folle, celle qui fait mine de se pincer le nez devant des États trop endettés, mais qui excelle à inventer des moyens astucieux de les endetter en douce. Toujours pour son bénéfice pur et simple, bien évidemment. Prenons un peu de distance. En matière de contrat public, il y a comme une nouvelle donne du capitalisme. Ce que je vais dire n'épuise pas le sujet, naturellement. C'est juste que j'essaye, à la mesure de mes moyens, de regarder ce qu'il y a derrière ce qui se passe et derrière ce qu'on nous raconte. Du point de vue des actionnaires des entreprises qui se voient attribuer des contrats au titre du partenariat privé-public, ces projets industriels ou de BTP, ou bon, c'est jamais que... Ben, comme tous les projets industriels ou de BTP, c'est bien sûr qu'un prétexte à profit. Sinon, ces entreprises n'entreprendraient rien du tout. Jusqu'à présent, donc, nous le savons, ça. Ces actionnaires s'enrichissaient sans rien faire. Mais à l'ancienne, l'entreprise était bel et bien obligée de faire bosser des gens. Il y avait donc quelque part du travail. Or, le nouveau... Un capitalisme, celui de la finance folle, lui, ce qu'il veut, c'est s'affranchir de ce poids. Exemple numéro un que tout le monde connaît, nous savons plus ou moins que l'enrichissement via la bourse se fait sans qu'il y ait de travail industriel derrière. Bon, et ça, c'est absolument merveilleux pour un actionnaire. Parce que vous savez, ma bonne dame, le travail, c'est que des emmerdements, hein ? Eh bien, cas numéro 2. On fait en ce moment un pas de plus vers le non-travail qui rapporte pourtant. Il apparaît en ce moment même une autre forme d'enrichissement sans travail. Et cette fois, écoutez bien, même quand il s'agit d'une société industrielle ou de BTP. Prenons le cas du fameux gaz de schiste. Une société, Petrolia, s'était portée volontaire pour exploiter du gaz de schiste français. Comme un coup d'arrêt a été mis à ces projets par les autorités de l'État. Je me demande ce qu'il aura pris ce jour-là. Eh bien, Petrolia demande tout simplement des dommages et intérêts, s'estimant lésé. 1 milliard de dollars, je crois. Alors, à supposer que la société obtienne ce pactole, les actionnaires de Petrolia auront, comme c'est la règle, empoché des dividendes sans rien faire eux-mêmes. Mais cette fois, ce serait même sans que l'entreprise ait eu besoin de mettre en place la moindre activité productive. On n'arrête pas le progrès pour ces gens-là. Autre exemple, la société belgo-luxembourgeoise Hersia, qui avait jeté son dévolu sur les forêts du Morvan et autour, loin autour. Après que son projet ait été recalé, eh ben elle va sûrement, si ce n'est déjà fait, elle aussi demander des soi-disant dommages et intérêts, vu que l'État avait pris des engagements dans cette affaire. Le principe est, on fait, on gagne. On ne fait pas, on gagne aussi. Et il en ira de même, si j'ai bien compris, pour l'aéroport Grand Ouest, qui rapportera tout de même à Vinci des sommes colossales de dédits le jour où le projet sera annulé. Il me semble que l'accusation de base apportée à ceux qui, par des élections, oui, bon, il y a des gens qui les élisent, oui, ben oui, en leur donnant un blanc-seing complet d'ailleurs, et sans qu'il n'y ait jamais de réel compte à rendre, d'où leur arrogance. Ils ont tendance à se prendre pour des demi-dieux, ceux-là. D'ailleurs, je me demande s'ils pensent tous comme ce fameux Georges Fraîche, l'ancien maire de Montpellier, qui déclarait publiquement « J'ai toujours été élu par des cons. J'ai toujours été élu par des cons. » Et il ajoutait « Et la prochaine fois, il en sera de même. » Bon, il me semble que l'accusation apportée à ceux qui se sont mandatés dans de telles conditions pour gérer l'argent public est celui de dilapider cet argent dont ils ont la charge. Ici, à Notre-Dame-des-Landes, cadeau à Vinci, si ça se fait, cadeau à Vinci, si ça ne se fait pas. Je ne sais pas si la même chose peut être dite des grands projets inutiles imposés en général, mais je soupçonne que oui, ce sont toujours de telles pratiques sordides, dignes de sagouins, de hooligans, appelez ça comme vous voudrez. Merci.